Les séminaires du Collège de France.
C'est avec plaisir qu'on va accueillir Gabriel Perret. Donc Gabriel est directeur de recherche au CNRS. C'est le directeur du Centre de sciences des données de l'École normale supérieure. Mais surtout, c'est un des quelques pionniers qui ont introduit les techniques de transport optimal en machine learning, ce qui, au départ, me semblait être une idée bizarre. Et en fait, c'est devenu un concept complètement fondamental. C'est-à-dire qu'on s'est petit à petit rendu compte, et c'est un peu le sujet de tout le cours, que finalement, à la fois pour comprendre les réseaux de neurones, mais pour synthétiser des distributions de probabilités, on tombe sur des questions de transport, mais pas forcément de transport optimal, et donc ça va être le sujet. Merci beaucoup, Gabriel, de nous faire cette présentation.
Ok, merci Stéphane pour l'invitation. Donc oui, le sujet de ce mini-cours, mini-exposé, ce ne sera pas forcément parler beaucoup de recherche, je m'en mentionnerai un peu à la fin, mais plutôt voilà, d'essayer un peu d'expliquer l'interface qu'il y a entre les techniques de sampling, donc qui utilisent, comme Stéphane l'a bien expliqué, du transport, et le transport optimal. Donc c'est un peu le premier but de l'exposé, et en particulier c'est la raison du sous-titre, c'est de comprendre l'importance de la structure de gradients, de champs de vecteurs qui vont être des gradients, ça va être un peu le thème récurrent sous-jacent à cet exposé. Et il y a un deuxième but voilà, qui est aussi de faire un peu de la pub pour des choses qui ne sont pas du sampling, donc ça ne fitera pas complètement dans le sujet du cours de Stéphane, mais qui utilisent les mêmes techniques, donc un peu aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils au-delà de juste faire du sampling. Donc ça, c'est, je vais passer assez vite sur l'intro pour motiver les choses. C'est juste pour dire que il y a un gros buzz sur l'IA générative à l'heure actuelle, assez justifié hein, parce qu'il y a vraiment des choses incroyables qui arrivent, et qu'à l'heure actuelle, il y a un peu une dichotomie entre deux types d'IA générative. Je pense que c'est assez facile de voir que dans les années qui viennent, il va y avoir un peu une fusion entre ces deux types de techniques, mais pour l'instant, elles sont vraiment disjointes. Donc c'est bien sûr les techniques à base de LLM pour le texte, donc pour les données discrètes, on va utiliser des techniques de prédiction auto-récurrente. Et pour les données vectorielles, particulièrement les images, ce qu'on va utiliser, c'est les techniques qui sont au cœur du cours de Stéphane. Donc vraiment insister qu'il y a ces deux idées. Et de façon un peu, peut-être pas surprenante, mais intéressante à remarquer, c'est qu'on retrouve les mêmes thèmes de structure dynamique dans ces deux types de techniques. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que dans les années qui viennent, il va y avoir sans doute voilà, une fusion un peu de ces deux types d'idées, pour l'instant ce n'est pas le cas, au sens que pour l'IA générative pour le texte, où là on n'est pas vraiment intéressé par sampler une distribution, on est plutôt intéressé pour faire prédire des choses textuelles et donc répondre à des questions, répondre à votre partiel de maths par exemple, on fait les choses de façon autorégressive, on génère les tokens un par un de gauche à droite, voilà, donc c'est le début du texte. Donc là le texte hein, c'est pour montrer en texte ou en image ce qui est un chercheur qui présente devant un auditoire l'IA et les maths, donc un chercheur qui s'appelle Jacques Leclerc. Voilà. Et donc on génère le texte de gauche à droite par autorégression, alors que pour les images, donc Stéphane l'a un peu évoqué aujourd'hui, je pense que ce sera surtout le cœur de son cours la semaine prochaine, on part d'un bruit, un bruit blanc par exemple, et progressivement on va le débruiter, donc on va avoir un système dynamique qui va générer progressivement l'image. Hein. Et au-delà, donc la technique elle-même, il y a des similarités. Et en termes de pré-training, donc toutes ces techniques, ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sont pré-entraînés avant de pouvoir les utiliser. On utilise aussi des tâches d'auto-supervision assez simples, assez élémentaires, qui sont pour le texte, prédire le mot suivant. Et pour l'image, c'est une tâche de débruitage. Ça, je pense que ça va être le cœur du sujet dans les cours à venir. On a deux tâches un peu bêtes, un peu simplistes, qui ensuite, on va pouvoir les utiliser pour déployer les réseaux, pour répondre à des questions fondamentales difficiles. Voilà. Donc ça, c'est juste le pitch d'intro. Moi, je vais vraiment aujourd'hui, comme j'ai dit, me focaliser sur la partie droite, donc la génération de données vectorielles avec des techniques d'équations différentielles. Donc ça, je refais ce que Stéphane a dit, donc je vais passer très vite là-dessus. Donc l'idée centrale des techniques qui sont à l'état de l'art à l'heure actuelle, c'est sampler les distributions à l'aide de techniques de transport. Hein, donc on va tirer aléatoirement un point au départ avec une distribution très simple, par exemple une gaussienne isotrope, et on va l'advecter, on va ce point le faire bouger le long d'une trajectoire jusqu'à arriver à sa position finale où on va ici avoir une distribution qui est celle que l'on souhaite. On peut faire des choses plus compliquées, on n'est pas obligé de partir d'une gaussienne, et je l'expliquerai tout à l'heure, on peut partir d'une distribution quelconque, ça peut être elle-même une distribution de données, de manière à interpoler également entre deux distributions, auquel cas on va avoir des trajectoires beaucoup plus complexes, et des structures de flow beaucoup moins triviales et c'est là-dessus que je voudrais insister. Voilà, le cas où on part d'une gaussienne qui a une structure particulière, le cas où on part d'une distribution potentiellement complexe qui rajoute de la difficulté. Donc le thème central de l'exposé, c'est les dynamiques d'évolution de distribution de proba. Alpha, c'est la distribution, elle dépend d'une variable de temps. En général, on va interpoler entre le temps 0 et 1. Donc alpha 0 et alpha 1, c'est deux distributions possiblement connues. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour bien des aspects, bien des disciplines. Bien sûr, pour le sampling, c'est le sujet du cours. J'insisterai beaucoup là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Je parlerai un peu d'optimisation. Ça peut être utile pour faire des flows qui vont optimiser des fonctions objectives avec des applications, par exemple en machine learning. Je parlerai brièvement d'optimiser des réseaux de neurones. Donc dans ce cas-là, les particules, ça va être les neurones qui vont évoluer. Et le temps, ce ne sera pas le temps d'échantillonnage, ce sera le temps d'optimisation. Donc là, par contre, le temps va aller jusqu'à plus l'infini. On va essayer d'optimiser à fond la fonction. Un autre point que je voulais insister, donc ça fait écho à la slide d'avant, c'est la compréhension des réseaux transformers, qui sont des réseaux qui sont très particuliers, qui travaillent sur des groupes de points et non plus juste sur des vecteurs. Et donc là, on va voir un transformer comme une machine qui va évoluer pendant ses couches, donc en profondeur, une distribution, cette fois-ci de tokens. Donc au lieu d'avoir des neurones, on va évoluer des tokens. Et un dernier point que je vais juste évoquer, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'en parler. Si ça vous intéresse, les slides sont disponibles sur ma page web, vous n'hésitez pas à m'en parler. C'est pour des applications en génomique, en biologie, où on va vouloir comprendre des trajectoires d'évolution dans le temps d'ensemble de cellules, comme par exemple le développement de l'embryon, comprendre le développement d'une maladie, d'un cancer. Donc la distribution des cellules va être dynamique, va évoluer dans le temps, et on veut la capturer, la comprendre. Donc c'est un peu les mêmes genres de techniques, mais pour bien sûr des applications fondamentalement différentes. Donc le point central, le point de vue qui à mon avis est important à comprendre et qui a été évoqué déjà par Stéphane, et je pense qu'il en reparlera la semaine prochaine, c'était cette espèce de dualité entre deux façons de représenter le problème. La façon eulérienne, on va avoir accès à la densité alpha entre guillemets directement. On va voir en chaque point le nombre de particules qui passent par ce point. Et la version dynamique, que je vais appeler lagrangienne, qui correspond à comprendre ou analyser le problème comme des particules qui évoluent dans le temps. Donc j'ai repris, je pense, les mêmes notations que Stéphane. Donc on a un champ de vecteurs, et les particules vont être advectées par ce champ de vecteurs. Et l'équation fondamentale, mon EDP favori, enfin je ne sais pas si chacun a peut-être une EDP favori, c'est probablement la mienne, c'est l'équation que Stéphane a appelée équation de Liouville, équation de continuité, équation de conservation, équation d'advection. C'est l'équation qui relie alpha à V. Je la répète parce qu'elle est fondamentale, c'est le fait que la somme de la divergence de V fois alpha plus la dérivée temporelle de alpha est égale à zéro. Suivant les contractions, dilatation de l'espace, la densité va augmenter ou baisser. Et Stéphane a fait la preuve, et je suis content parce que sinon j'allais la faire au tableau, ça m'aurait pris du temps, et donc je ne vais pas la faire. Et c'est une équation importante. Peut-être que chacun a son équation, peut-être l'équation de la chaleur est une équation très connue, et on va voir justement que l'équation de la chaleur peut se voir comme un cas particulier de cette équation. Donc c'est vraiment une équation qu'on retrouve un peu partout dès qu'on a de la conservation de la masse. Le point qui est crucial, et je vais vraiment insister là-dessus, pour moi c'est le point le plus important peut-être du cours, c'est le fait que si vous me donnez un champ de vecteur V, s'il est suffisamment régulier, s'il est lipschitzien, on peut intégrer les trajectoires, et du coup on va avoir une solution de l'équation différentielle. Donc quand vous me donnez un V, il y a un seul alpha qui correspond, c'est presque immédiat. Par contre, la chose qui est très profonde, c'est que le sens inverse, lui, c'est plus complexe. À partir d'une donnée, d'une observation eulérienne d'une évolution, il y a une infinité de champs de vecteurs possibles, tout simplement parce que la divergence, c'est un opérateur qui est un noyau. Entre guillemets, il y a beaucoup plus de champs de vecteurs que de alpha. Donc, on pourrait appeler ça un problème mal posé. Si vous me donnez un alpha, il y a plein de possibilités de V et aussi plein d'opportunités. Donc c'est à la fois un problème parce que c'est une question mal posée, mais aussi l'opportunité de choisir le V, ça peut être très intéressant. Chercher des V particuliers, insuffler des a priori pour trouver des V qui ont des meilleures propriétés. Et cette équation, elle est très simple parce qu'elle est linéaire en alpha, c'est une EDP linéaire, tout comme l'équation de la chaleur. Elle est également linéaire en V, enfin en V c'est juste juste entre guillemets un opérateur divergent, mais il y a cette bilinéarité entre alpha et V qui fait que le transfert de géométrie entre les deux quantités, il est pas trivial. Par exemple, pensez, le cas trivial, le cas simple à comprendre, c'est prenez une gaussienne isotrope, si vous la tournez, donc les particules elles vont bouger, mais la densité reste la même. Donc comprendre l'ensemble des champs de vecteurs qui laissent une distribution invariante, c'est pas si simple que ça. Ça c'est aussi des choses que Stéphane a dit, mais du coup c'est bien de le redire. À partir de la donnée d'un champ de vecteurs, on peut l'intégrer, donc on peut calculer la solution de l'équation différentielle, et du coup ça définit un opérateur de transport grand T qui envoie les particules au temps 0 jusqu'aux particules au temps 1. Et la conséquence presque immédiate, mais qui est cruciale pour les applications en sampling, c'est que si vous avez un vecteur aléatoire au temps t égale 0, x0, dont la loi c'est alpha 0, alors l'image de ce vecteur aléatoire, donc grand T de x0, va être distribuée selon la distribution cible. Donc si vous connaissez très précisément V, du coup vous êtes les rois du pétrole, entre guillemets, puisque en intégrant le champ de vecteurs, vous avez une technique pour échantillonner selon alpha 1. Bien sûr, toute la question, c'est comment on calcule V, ce serait bien sûr sinon trop simple. C'est le cœur du sujet. Cette équation-là, le fait que grand T couple entre guillemets alpha 0 et alpha 1, au niveau des mesures, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de push-forward, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, je le réutiliserai tout à l'heure, mais ça c'est vraiment la contrainte de sampling fondamentale. Et ceux qui ont suivi mon cours MVA connaissent très bien le push-forward, c'est un peu le thème de mon cours, mais retenez juste cette équation qui est l'équation d'échantillonnage. Donc la première partie, c'est un peu mettre en musique ce que je viens de vous dire et parler de un peu plus précisément, faire écho à ce que Stéphane a dit. Et ensuite, ce sera trois thèmes distincts. Donc la génomique, je pense que je n'aurai pas vraiment le temps d'en parler, je le mentionnerai, qui utilisent des idées similaires, mais pas pour faire de l'échantillonnage. Donc revenons à la question fondamentale qui est, étant donné une représentation alpha-t, donc eulérienne, on pourrait dire, comment on peut trouver un Lagrangien, comment on peut résoudre, entre guillemets, cette équation inverse mal posée. Donc il faut insuffler un a priori, il y a une infinité de V possibles, il faut insuffler un a priori, et l'a priori, entre guillemets, de transport optimal, qu'on pourrait appeler a priori de moindre effort, c'est de choisir tout simplement le champ de vecteur le plus petit. Et donc ça, c'est une idée extrêmement simple, mais extrêmement puissante et profonde en fait. Souvent, on l'appelle le calcul d'Otto, parce que ça a été introduit, enfin, on s'en rappelle souvent par les travaux de Félix Otto au milieu des années 90, mais en fait, c'est une idée qui a été introduite pendant la thèse de John Lafferty. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez John Lafferty, parce que c'est quelqu'un qui est très connu en machine learning, il a fait énormément de contributions en machine learning, donc il est beaucoup plus connu pour ses contributions en machine learning que pour ceci. Ça, c'est son travail de thèse qui est très profond. Donc en fait, lui, il l'avait appelé le density manifold parce que ça correspond à équiper l'ensemble des distributions de proba d'une structure, entre guillemets, riemannienne. Donc si vous me donnez un alpha de t, une façon de bouger autour de ce alpha, c'est de le transférer à travers des champs de vecteurs qui vont le faire se déplacer. Et donc la structure sur le plan tangent, c'est les champs de vecteurs. Et on va équiper ces champs de vecteurs de la norme L2. Tout simplement, vous allez déclarer que l'amplitude d'un champ de vecteurs, c'est juste l'intégrale de V au carré contre votre mesure alpha. Donc si votre mesure, c'est un ensemble de Dirac discrets, c'est un espace vectoriel de dimension finie, où chaque petit Dirac, vous pouvez le bouger selon un champ de vecteurs, et vous mesurez sa norme à travers la norme L2 que tout le monde aime et utilise en dimension finie. Mais ça, c'est une version en dimension infinie de ce que c'est que le plan tangent d'un ensemble de champs de vecteurs. Et donc c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser les moindres carrés, au moins 200 ans, voire plus, Gauss ou Laplace, qui disait que pour résoudre un système linéaire, on va choisir l'élément, la solution de norme minimum, qui va toujours être bien définie. Donc parmi l'ensemble des champs de vecteurs qui satisfont l'équation de continuité, on va choisir celle qui a la norme L2 minimum. C'est un problème d'optimisation quadratique convexe sous contrainte. Donc c'est à la fois extrêmement simple parce que c'est une structure convexe simple, mais en même temps très complexe parce qu'on est en dimension infinie. L'ensemble des champs de vecteurs, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Comment on le résout, en tout cas si on est un matheux? Tout simplement, on a une contrainte, on introduit un multiplicateur de Lagrange, c'est psi, que j'ai noté psi, donc une fonction potentielle, et on va remarquer par les équations d'optimalité la propriété fondamentale que j'ai déjà mentionnée, que le champ de vecteur va être le gradient du multiplicateur de Lagrange. Donc quand on résout au moindre carré l'équation de Liouville, on obtient toujours un champ de vecteur qui est un champ de gradient, et réciproquement, les champs de gradient sont exactement les solutions au sens des moindres carrés, donc au sens du moindre effort. Maintenant, quelle est la difficulté? Si vous mettez dans votre équation de continuité le fait que V est le gradient d'un potentiel, vous obtenez que le potentiel résout une équation de Poisson, donc il est la solution de l'équation laplacien de psi égale à la dérivée en temps, moins la dérivée en temps de alpha. Donc pour résoudre ce potentiel, malheureusement, vous devez inverser un laplacien. Mathématiquement, c'est très bien posé. Un laplacien a toujours une solution unique si vous donnez des bonnes conditions au bord. Donc c'est une bonne technique mathématique, mais comme on le fait en dimension très très grande, bien sûr, c'est difficile. Donc ce qu'on va utiliser, c'est essayer de trouver des problèmes plus simples, des solutions plus simples, des fois closed form, des fois avec des structures intéressantes, en choisissant des interpolations alpha de t particulières. Et donc c'est un peu les deux idées, un peu presque les deux points extrémaux, c'est les techniques de flow matching, de diffusion, qui seront, je pense, expliquées par Stéphane bien en détail la semaine prochaine, et le transport optimal. Ces deux techniques d'interpolation alpha de t particulières pour lesquelles on peut, entre guillemets, résoudre plus simplement ça parce qu'on a des problèmes, des structures plus simples. Donc, en une slide, qu'est-ce que sont ces techniques de flow matching qui sont vraiment très fortement reliées aux techniques de diffusion? Je pense que la façon de retenir, c'est tout simplement, on va choisir une interpolation alpha de t particulière, extrêmement simple, qui a des bonnes propriétés. Et c'est quoi, entre guillemets, la façon la plus simple? C'est juste de dire qu'on va interpoler, moi j'appelle ça par convolution, mais tout simplement en reliant des points aléatoirement entre vos deux distributions. Vous tirez un point selon la distribution rouge aléatoirement, vous tirez un point selon la distribution bleue aléatoirement, et vous le reliez par une ligne droite, et vous faites une bête interpolation linéaire. C'est-à-dire que la alpha de t, c'est la loi du mélange linéaire entre vos deux vecteurs aléatoires. Vous savez, quand on fait la somme de deux vecteurs aléatoires, on fait la convolution. Donc ça veut dire que la loi de alpha t, c'est tout simplement la convolution de la loi de x0 mise à l'échelle par 1 moins t et de la loi de x1 mise à l'échelle par t. Donc vous avez comme ça une interpolation qui, au niveau des densités, est en fait linéaire, c'est une convolution. Donc c'est extrêmement simple et ça permet d'avoir des solutions très élégantes. En particulier ce théorème, donc on le trouve à pas mal d'endroits, en particulier Eric van den Heijden, qui est maintenant à Paris, a prouvé ce théorème. Également Yaron Lippmann et son équipe ont prouvé le même théorème. Et c'est un théorème qui est très très intuitif. C'est-à-dire que pour trouver un champ de vecteurs admissible, donc vous vous placez en un X ici, vous regardez l'ensemble des trajectoires qui passent par ce X, donc là j'en ai tracé deux, mais il y en a plein. Vous prenez les vecteurs tangents à ces trajectoires, donc c'est tout simplement le vecteur Y moins X ici, si vous avez un point Y, enfin non, plutôt X1 moins, c'est marqué ici, hein, X1 moins X0, si vous avez le point bleu c'est X1, le point rouge c'est X0. Vous faites la moyenne de tous ces vecteurs verts qui passent par ce point-là, et vous obtenez un champ de vecteur V, donc mathématiquement ça veut dire qu'on fait une espérance conditionnelle, et le théorème c'est que ce vecteur V satisfait l'équation de Liouville. Donc, bien sûr, il y en a une infinité possible de vecteurs V, et ça vous donne une solution particulière qui est très très simple et très élégante. Donc elle est simple parce que elle est simple, c'est juste une moyenne linéaire. L'autre propriété fondamentale qui est utilisée de façon très importante en machine learning, c'est qu'une espérance conditionnelle, c'est elle-même la solution d'un moindre carré. Hein, la moyenne, c'est ce qui minimise la somme des distances au carré. Et donc vous pouvez réexprimer ce champ de vecteurs, parce que comment on calcule une intégrale, a priori, ce n'est pas complètement évident, sous une autre forme, sous la solution d'un autre problème d'optimisation, qui est encore une fois un problème quadratique, c'est assez rigolo de voir que minimiser des quadratiques, c'est très fructueux, ça marche très bien, qui dit juste que votre champ de vecteur V, c'est celui qui est le plus proche possible des différences entre x1 moins x0 au sens du moindre carré. Hein, c'est juste une autre façon d'écrire la chose. Pourquoi ça c'est sympathique? Parce que ça c'est un problème d'optimisation sur contrainte. Il n'y a pas de laplacien, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien, il y a juste une fonction quadratique à minimiser. Donc c'est extrêmement simple. Et comment on va faire en pratique? On va la résoudre en paramétrisant le champ de vecteur V par un réseau de neurones. Donc c'est la seule fois dans le cours où il y aura, enfin, dans mon exposé où il y aura des réseaux de neurones, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que ce n'est pas le cœur de mon exposé. Mais vraiment, cette formule-là, elle est fondamentale. C'est cette formule-là qui fait tout marcher. Donc pourquoi ça s'est relié au champ de gradient, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est cette proposition que je ne vais pas démontrer, parce qu'en fait ce sera un corollaire, je pense, du théorème que vous montrera Stéphane la semaine prochaine sur le score matching. Si vous partez de alpha 0, qui est une distribution gaussienne isotrope, ce que la plupart des applications font en pratique, parce qu'elle est extrêmement simple, dans ce cas-là, vous allez avoir ici la convolution entre une gaussienne et votre distribution. Et quand vous convolez une distribution par une gaussienne, vous avez une diffusion. Donc, c'est exactement ce que Stéphane a commencé à vous expliquer. Donc vous avez une équation de la chaleur. Et dans ce cas-là, on peut montrer que le champ de vecteur va lui-même être un champ de gradient. Donc ce n'est pas une preuve complètement évidente, il y en a peut-être des plus simples. Mais en passant par la diffusion, vous allez obtenir que, encore une fois, uniquement dans ce cas très simple, le cas où vous partez d'une gaussienne, le champ de vecteur est un champ de gradient. Et donc si vous avez compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, a priori, VT résout au moindre carré l'équation de Liouville. Donc après, la question, c'est est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bien d'être un champ de gradient ou pas? Ça, c'est des questions de recherche qui ne sont pas résolues. Je reviendrai là-dessus sur la conclusion. C'est également une question de recherche de comprendre ce qui se passe quand la distribution de départ n'est pas une gaussienne isotrope. Ne serait-ce que vous prenez une gaussienne non isotrope, vous prenez des distributions plus complexes, a priori, ce théorème est faux. En tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été démontré, mais je conjecture que c'est violemment faux, et qu'en général, à part le cas d'une gaussienne isotrope, vous allez plus ou moins jamais être un champ de gradient si vous utilisez cette technique d'espérance conditionnelle. Est-ce qu'on peut développer d'autres techniques? Ça aussi, c'est des questions de recherche qui me semblent extrêmement importantes à comprendre. Donc, il y aura plus de questions que de réponses dans cet exposé. Donc voilà, ça c'est un peu la connexion qu'on peut faire immédiate entre les modèles de diffusion, score matching, flow matching et la structure de gradient. L'étape 2 de la fusée, c'est de passer au transport optimal. Et en fait, j'ai tous les outils, donc c'est ça qui est sympa. Via cette approche dynamique, le transport optimal s'introduit de façon très naturelle. Donc je vous ai dit que pour les modèles de diffusion, pour les modèles de flow matching, on impose alpha 2t, on prescrit alpha 2t comme une convolution. Et bien pour le transport optimal, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement laisser l'interpolation libre. Vous allez calculer ce qu'on appelle une géodésique. Vous allez chercher alpha 2t optimal de façon à minimiser l'intégrale du carré de la norme du champ de vecteur. Donc au lieu d'optimiser juste sur V, vous allez optimiser à la fois sur V et sur alpha sous cette contrainte de divergence nulle. Hein. Et cette quantité, la longueur géodésique au carré, c'est ce qu'on appelle la distance de Wasserstein en général, même si Wasserstein n'a absolument rien contribué sur cette question. W2 au carré, c'est la longueur de la plus petite courbe qui relie la distribution rouge à la distribution bleue. Donc là, peut-être vous vous dites, a priori c'est très complexe, comment calculer ça ? Et en quoi c'est relié à ce que Stéphane vous a dit la semaine dernière sur le problème de Monge ? Et c'est relié via un théorème qui, à mon sens, est un théorème très profond et très intéressant, qui est dû à Jean-David Benhamou, qui est chercheur à Paris, et Yann Brunier, un des, je pense, plus grands mathématiciens de ce siècle, qui a montré la formule de Brunier, donc qui a vraiment analysé de façon très profonde le transport optimal. Mais les travaux de thèse à l'époque de Jean-David consistaient à montrer que justement, cette longueur géodésique, cette distance au carré, eh bien, en fait, elle est égale à la distance de transport de Monge, qui a été introduite la semaine dernière. C'est-à-dire que cette longueur-là, que j'ai appelée W2 au carré, est réalisée, est la même chose que le coût du transport le plus faible possible. Quand vous partez d'un x ici en rouge, vous arrivez à t de x ici, vous mesurez la distance parcourue tout simplement par la norme au carré, et vous infimisez ça, vous cherchez le grand t optimal parmi l'ensemble des grands t qui envoient alpha 0 sur alpha 1, ce qu'on appelle couramment le problème de Monge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fois un problème dynamique. Vous cherchez une géodésique, vous cherchez à minimiser la longueur de la trajectoire de façon dynamique, alors que le problème de Monge, c'est un problème statique, c'est-à-dire que vous envoyez directement x du point de départ au point d'arrivée. Et donc la chose qui est surprenante et qui est absolument non triviale, c'est qu'ici vous avez un exemple de distance géodésique que vous pouvez calculer aussi de façon statique, vous pouvez enlever l'intégrale en temps. Hein. La preuve n'est pas très compliquée, c'est vraiment fondamentalement basé sur le fait que vous avez un carré ici. Et ce qui est un peu caché derrière, et j'interpelle un peu là-dessus, c'est qu'il y a de la convexité cachée dans ce problème. En général, optimiser une géodésique, c'est un problème horriblement non convexe. Et une des contributions que je n'ai pas expliquées ici, mais qui à mon avis c'est une contribution clé de Jean-David, c'est de remarquer que si on fait un changement de variable dans cette équation, si au lieu de minimiser sur V, vous minimisez sur le produit alpha fois V, ce qu'on appelle souvent le moment, donc vous multipliez le champ de vecteur par la densité, donc par exemple, si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de densité, ça s'annule, ce qui est une bonne façon, parce que quand il n'y a pas de densité, pourquoi mettre un champ de vecteur ? Sur cette nouvelle variable, ici, vous allez avoir une nouvelle fonction qui est convexe. Donc en fait, le problème peut se résoudre même numériquement, en petite dimension, comme la résolution d'un problème convexe. Et c'est ça qui fait marcher la preuve. Hein, parce que bon, c'est a priori pas clair pourquoi vous avez une égalité. Et donc ça, c'est moi. On a l'impression que c'est un copy-paste, mais non, c'est juste que Yann est beaucoup plus grand que moi. J'ai fait un cours de transport optimal avec Yann, et donc je l'ai fait monter. Quand j'ai fait le théorème de Brunier, il est monté à côté de moi, on s'est pris en photo. C'est un très bon souvenir. Voilà, je vous souhaite un jour de faire un cours avec votre héros scientifique, c'est toujours une bonne expérience. Donc maintenant la deuxième partie de l'exposé entre guillemets, c'est montrer cherry picking, j'ai pris quelques applications que j'aime bien, chères à mon cœur. On va également utiliser cette structure de gradient pour des choses qui ne sont pas a priori de l'échantillonnage. Après, optimiser c'est assez voisin d'échantillonner, mais pas exactement. Donc la première chose, et qui à mon avis un des grands succès, en tout cas méthodologique ou intellectuel du transport optimal, est la distance de Wasserstein, c'est pour définir des stratégies d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a une fonction f définie sur les distributions de probabilité, f de alpha, qui assigne un score à chaque distribution, est-ce qu'elle est bien ou pas bien, et vous voulez trouver la meilleure distribution, vous voulez trouver alpha, qui minimise cette fonction objective. C'est donc un problème d'optimisation a priori en dimension infinie, donc c'est pas des choses qu'on fait tous les jours en se levant, mais il y a pas mal de problèmes qu'on peut écrire comme ça. Comment on optimise de façon générale sur un espace qui a une structure très compliquée ? On peut le faire avec une méthode un peu de l'air implicite. Donc là, j'ai écrit un peu une formule spécifique pour Wasserstein, mais en fait, vous pouvez le faire sur n'importe quel espace métrique. Vous démarrez avec un alpha 0, et puis vous allez définir de façon récurrente alpha de t, en disant que alpha autant t plus tau, c'est la solution d'un problème d'optimisation, où vous cherchez à la fois à minimiser f, mais également à être proche de votre point précédent. Et donc le paramètre tau, le pas de descente, c'est juste une pondération entre, quelque part, la vitesse que vous allez avoir, combien vous voulez bouger vite ou pas, entre chaque étape. Et donc le tau, ça va être en fait un pas de descente, exactement comme le learning rate en optimisation. Donc vous allez avoir alpha t, alpha t plus tau, puis au bout d'un moment, vous espérez que vous allez vous rapprocher de la solution. Donc cette technique-là, c'est pour ça que je donne ces trois auteurs, JKO, Jordan Kinderlehrer et Otto, donc le même Otto que tout à l'heure, c'est vraiment eux qui ont eu un peu cette idée-là et qui ont relié ça aux équations aux dérivées partielles. Donc, bien entendu, donc exactement comme ce que Stéphane a dit, hein, l'idée c'est que ça va être plus simple si on essaie d'analyser ce qui se passe en temps continu. Donc on prend formellement la limite quand tau tend vers zéro, de manière à avoir une évolution en temps continu de cette distribution de proba qui va minimiser la distance. Et donc si vous avez suivi l'exposé, ce que j'espère que vous avez fait, vous comprenez que l'idée c'est que ces évolutions eulériennes, vous pouvez très bien les réécrire de façon équivalente comme une équation de Liouville, une équation de continuité. Hein. Donc à la limite où tau tend vers zéro, cette stratégie d'optimisation devient une équation aux dérivées partielles. Et la question, c'est quel V vous voulez choisir. Et la chose qui n'est pas très compliquée à prouver, et à mon avis très profonde et spectaculaire, c'est que vous pouvez toujours prendre un champ de vecteur V qui est un champ de gradient. Bon, c'est lié à Wasserstein, vous dites alors que les Wasserstein, c'était lié au champ de gradient, donc il n'y a pas vraiment une surprise forte. Et ce champ de vecteur, ce champ de gradient, qu'on appelle parfois le gradient Wasserstein, le gradient particulier, il a plusieurs noms, en fait, il a une forme, entre guillemets, une forme close. C'est cette formule, c'est que c'est moins, parce qu'on va décroître l'énergie, le gradient au sens classique d'une fonction. Donc cette fonction, j'ai noté delta f, des fois elle est notée f', des fois on l'appelle dérivée de Fréchet, elle a plusieurs noms. C'est juste la dérivée au sens classique de votre fonction f, c'est celle que vous obtenez quand vous faites un développement limité. Vous déclarez que si vous prenez f en alpha plus un petit déplacement d'amplitude tau, c'est f de alpha plus tau fois une fonction linéaire, c'est-à-dire le produit scalaire entre bêta, le déplacement, et un potentiel, une fonction que je nomme delta f. Donc une fonction est dérivable au sens Fréchet si et seulement si vous pouvez faire ce DL. Et donc le gradient Wasserstein, c'est rien d'autre que le gradient au sens classique de la dérivée de Fréchet de votre fonction. Donc comme ça, ça paraît un peu abscon, mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a une formule, et on peut regarder ce que ça fait dans des cas particuliers. Juste pour dire que tout ça, ce gradient-là, cette technique d'optimisation, si vous vous restreignez à des distributions qui sont une seule particule, vous imposez partout que vous avez une seule particule, donc alpha c'est un Dirac en x de t, du coup ce qui va se passer, c'est que la fonction f, vous allez l'évaluer en delta x, donc ça va vous donner une fonction h de x, et toute la distance de Wasserstein entre les deux distributions, ça devient la distance au carré, et donc ce schéma de l'air implicite sur des distributions de proba, ça devient tout simplement le schéma de l'air classique sur des fonctions f de x classiques. Et le gradient Wasserstein devient rien d'autre que le gradient au sens classique de votre fonction h. Donc dans le cas d'un seul Dirac, à la fois les équations de l'air implicite et le champ de gradient Wasserstein, c'est tout simplement la descente de gradient classique que vous aimez et utilisez tous les jours pour minimiser des fonctions. Donc le x va tout simplement évoluer selon une trajectoire de champ de gradient. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir généraliser cette notion de faire des gradients sur une particule à pouvoir faire des gradients sur autant de particules qu'on veut, voire une continuité. Parenthèse fermée, désolé, j'aurais dû la faire avant. On revient sur des cas particuliers. Le cas le plus simple, c'est le cas d'une fonction linéaire, c'est-à-dire que la fonction, c'est juste l'agrégation d'un score h sur toutes les particules, la somme. C'est une fonction qui est linéaire en alpha. Dans ce cas-là, quand vous faites la dérivée de Fréchet d'une fonction linéaire, vous obtenez h. La dérivée d'une fonction linéaire, c'est le coefficient directeur. Le champ de gradient Wasserstein, c'est le gradient de h. Donc on retrouve ici que chaque particule, pour une fonction linéaire, va évoluer, vivre sa vie indépendamment de ses voisines selon le DO de champ de gradient classique. Donc ça n'a pas grand intérêt à ce niveau-là. Le gros intérêt, c'est pour ça que ces trois sont très très connus, ça a été le fait de regarder la négentropie, donc moins l'entropie de Shannon, donc l'intégrale de rho log rho, où rho c'est la densité relative par rapport à Lebesgue. Donc ça c'est quand vous allez minimiser cette fonction, vous allez maximiser l'entropie. Donc le flot gradient Wasserstein de la négentropie, c'est un flot qui va chercher à rendre la densité la plus plate possible. Ça veut maximiser l'entropie, maximiser le désordre. Et si on fait le calcul, c'est là où c'est sympa. Quand on calcule la dérivée de Fréchet de x log x, c'est log x plus 1. Donc du coup, la dérivée de Fréchet, là, le petit delta, c'est tout simplement log de alpha. Et donc le champ de gradient Wasserstein, c'est le gradient de log de alpha, ce que Stéphane, je pense, la semaine prochaine, appellera le score. Donc le gradient Wasserstein, c'est tout simplement le score. C'est quoi le gradient de log de alpha? Bah, c'est juste le gradient de alpha divisé par alpha. La dérivée du log, c'est 1 sur x. Et bah, vous voyez que si vous pluguez dans l'équation de Liouville, vous allez avoir la divergence de gradient de alpha divisé par alpha fois alpha. Vous allez obtenir le Laplacien. Et donc, la chose à retenir, qui a été un gros splash à l'époque, c'est de remarquer que quand vous êtes Wasserstein compatible, vous êtes des petites particules qui bougeaient, vous voulez minimiser l'entropie de Shannon, ce que vous obtenez, c'est l'équation de la chaleur. Et ça, c'est assez surprenant que ce soit si récent, parce que ça donne une nouvelle interprétation de l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur, en général, on la voit comme le flot gradient au sens L2, au sens de l'intégrale des fonctions au carré, donc au sens des densités, au sens de la géométrie des densités classiques, comme le flot gradient de l'intégrale de la dérivée au carré. Hein, c'est-à-dire qu'on, quand on fait l'équation de la chaleur et qu'on on raisonne comme ça, on voit l'équation de la chaleur comme la façon de rendre la fonction la plus lisse possible rapidement. Vous voulez minimiser l'intégrale de la dérivée au carré. Là, c'est très différent. Si vous êtes des petites particules qui bougent, la nouvelle interprétation, c'est de dire que l'équation de la chaleur, c'est la façon de maximiser l'entropie, donc de rendre la fonction la plus plate possible, le plus rapidement possible. C'est pas surprenant, c'est juste différentes interprétations. Vous changez à la fois la façon de voir les densités et vous changez la fonction et vous avez deux façons d'interpréter la même équation. Bien sûr, ça n'a absolument aucun intérêt sur le plan mathématique parce que l'équation de la chaleur, il n'y a pas besoin de Wasserstein pour la comprendre, on peut utiliser Fourier. C'est juste presque philosophique, c'est une nouvelle façon de penser les équations aux dérivées partielles. Donc c'était extrêmement fructueux comme des nouvelles techniques pour analyser les équations aux dérivées partielles. Voilà, encore une fois, je ne vais pas insister là-dessus, mais j'espère que vous êtes sensible à la beauté de ce genre de résultats. On peut faire plein d'autres types de fonctionnels. Les fonctionnels, je dirais, un peu le niveau 2 après les fonctions linéaires, c'est de faire les fonctions quadratiques, les fonctions d'interaction, c'est les fonctions qui sont au cœur de la physique. Dès qu'on a des systèmes de particules qui évoluent selon la gravité, elles vont interagir entre elles. En génomique, en biologie, c'est pareil, les cellules interagissent entre elles. Et donc, le plus simple, c'est juste de dire que le score, c'est un score de toutes les interactions possibles entre des paires de particules X et Y selon un certain noyau grand K. Donc, pour la gravité, le noyau, c'est un 1 sur X moins Y. Pour la biologie, on ne le connaît pas vraiment, c'est une question de comprendre ce noyau, mais tout est caché dans ce noyau d'interaction. Dans ce cas-là, le gradient, bah, vous faites le calcul, ça va être le gradient au sens classique de la dérivée de Fréchet d'une fonction quadratique. La dérivée d'une fonction quadratique, c'est une fonction linéaire. Donc votre gradient, ça devient une fonction linéaire de alpha. Donc là, la nouveauté, c'est que dès que vous allez avoir des interactions, le champ de vecteur, il ne va pas être constant, il va dépendre de la densité elle-même. Donc ça fait des équations qu'on appelle souvent les équations de Makin-Vlasov, qui sont des équations extrêmement complexes, qui sont les équations qui régissent les évolutions de la physique en général, dès que vous avez des particules en interaction. Et donc là, le DP, malheureusement, est plus complexe. À quoi ça peut servir pour des choses un peu plus proches de nous? Ça peut servir, par exemple, mais pas que, pour comprendre l'optimisation de structures extrêmement simples, de réseaux de neurones malheureusement extrêmement simples, qui sont les réseaux de neurones à deux couches, ou plus généralement, l'optimisation des paramètres d'une structure de calcul qui va juste faire des sommes de fonctions élémentaires. Hein, donc z, c'est votre feature, votre vecteur. Vous voulez prédire, je sais pas, des classes par exemple. Vous allez utiliser un réseau de neurones ou toute autre structure que vous pouvez résumer comme une somme sur les neurones. Donc n, c'est le nombre de neurones, de fonctions élémentaires phi. Ou xk, ici, ça va être les paramètres de ma fonction élémentaire. Donc dans le cas d'un réseau de neurones à deux couches, hein, en général, en sandwich, vous allez avoir une fonction type relu. Et donc la fonction élémentaire, c'est d'abord une couche linéaire, un produit scalaire, suivi de la fonction relu, suivi d'un poids extérieur qui va moduler votre relu, qui peut la rendre négative par exemple. Mais ça, c'est juste un cas particulier, vous pouvez faire n'importe quel fonctionnel que vous pouvez écrire comme ça, vous allez pouvoir avoir la même description. Donc classiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les meilleurs paramètres, les meilleurs neurones x1 jusqu'à xn, qui minimisent la somme des erreurs de prédiction, par exemple, pour simplifier, une erreur au carré. Et vous allez faire ce que tout le monde fait en général, une descente de gradient, éventuellement une descente de gradient stochastique, mais vous allez toujours considérer ce genre d'équation. C'est un peu les rois du pétrole en machine learning. C'est assez surprenant, parce que l'optimisation, c'est un peu quelque chose de has-been il y a quelques années, et maintenant, c'est vraiment le cœur du sujet pour faire des réseaux de neurones. Et c'est très bien, parce que justement, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc, la façon de comprendre ce qui se passe, ça, c'est pas plus général, c'est une équivalence, c'est de regarder ça sous le prisme des distributions de proba, c'est-à-dire les paramètres ici sont interchangeables. Si vous mélangez vos xk, la fonction reste la même. Donc la fonction, elle est invariante par permutation de vos paramètres. Ce qui veut dire que vous pouvez représenter vos paramètres non pas comme plein de vecteurs à la queue leu-leu, mais comme une distribution de probabilité. Vous allez représenter l'ensemble de vos paramètres comme la distribution discrète 1 sur n, somme des delta xk. Dans ce cas-là, votre somme ici devient juste une intégrale. Donc à ce point de vue-là, c'est très formel, c'est juste une autre façon d'écrire la même quantité. Un intérêt de cette représentation, qui est tout à fait mathématique, en pratique, ça n'a pas d'intérêt, c'est que ça marche encore même si vous avez une infinité de neurones. Vous pouvez définir un réseau de neurones avec une largeur infinie, un nombre infini de neurones, tout simplement en disant que vous avez une distribution de probabilité sur l'espace des neurones. Ce qui est un cadre mathématique élégant pour faire l'épreuve. Par exemple, si les gens qui connaissent le théorème de Baron, qui est le théorème le plus puissant sur les réseaux neuronaux à deux couches, il exploite exactement cette technique pour dire que un réseau de neurones, c'est une espérance sur un ensemble de neurones. Et donc maintenant, ce qu'on va minimiser, c'est une fonction qui n'est non plus une fonction d'un nombre fini de paramètres, qui est une fonction f de alpha, comme tout à l'heure, qui dépend de la distribution de probabilité sur l'espace de neurones. Et donc cette équation différentielle sur tous les xi est tout à fait exactement équivalente, hein, c'est exactement le sujet depuis le début, à une équation de Liouville, une équation de conservation, où ici, le champ de vecteurs que vous allez utiliser, c'est le fameux gradient Wasserstein. Donc c'est juste une redite de ce que j'ai dit précédemment dans un cas particulier. Dans ce cas-là, quelle est la fonction f? C'est une bête fonction quadratique. Donc si on développe les carrés, on va trouver que la fonction f de alpha, c'est la somme d'un potentiel d'interaction entre les neurones. Ça, c'est l'équation du potentiel d'interaction. Si vous avez un réseau de neurones particulier, vous pouvez le calculer. Ça dépend des données. Hein. C'est un problème qui est compliqué parce que suivant votre distribution de features, le noyau est différent. Et une fonction linéaire qui dépend des labels. Hein. Donc c'est une fonction qui est la somme de deux types de fonctions qu'on a vues précédemment. Donc on peut calculer son gradient. De façon générale, c'est tout à fait horrible. On est absolument incapable de décrire l'évolution de cette distribution de proba à cause du noyau d'interaction qui est potentiellement compliqué. Il y a eu un résultat très spectaculaire dû à Lenné Chiza et Francis Bach il y a quelques années maintenant, qui à mon sens est un des plus gros résultats du domaine généralement des mathématiques du machine learning. Il est vraiment réduit au cas des réseaux à deux couches, mais c'est un résultat très fort parce qu'il dit que dans le cas particulier des architectures perceptrons, donc dans le cas particulier où vous avez une dépendance linéaire par rapport à la couche externe, et c'est extrêmement important, si le U était à l'intérieur, le théorème serait faux. Dans ce cas-là, grosso modo, si vous avez suffisamment de neurones, en particulier si vous en avez un nombre infini, les trajectoires ne peuvent jamais rester bloquées dans un minima local. Alors on peut imaginer des cas où la trajectoire ne converge pas, mais moralement, avec proba 1 sur l'initialisation de vos réseaux, vous allez toujours converger vers le minimum global, qui est, si vous avez suffisamment de neurones, de par l'universalité des réseaux, est zéro. Vous allez tomber sur exactement une interpolation de vos données. Et c'est le premier résultat de ce type, c'est le premier résultat de convergence globale. Il reste très faible parce qu'il n'est que pour les réseaux à deux couches. De plus, il n'est pas quantifié. Qu'est-ce que ça veut dire que assez de neurones? Est-ce que c'est 10, 100, 1000, 1 million? C'est tout à fait inconnu. Donc, ce n'est pas un théorème effectif en pratique, mais c'est un théorème mathématiquement très élégant, puisqu'on peut le résumer en disant c'est un résultat de convergence d'une équation différentielle vers sa solution d'équilibre. Ce qui, même en maths, hein, même pour les gens qui font des EDP, à ma connaissance, n'était pas connu. En général, l'équation de Makin-Vazov, on n'est même pas capable de dire c'est quoi ces points critiques. Et on ne sait pas vraiment si elles convergent vers un point critique particulier. Une autre application que je voulais mentionner, je vais aller assez vite, je vais dire un peu les idées principales. Encore une fois, les slides sont disponibles, les papiers aussi, si ça vous intéresse. C'est pareil d'utiliser l'idée de représenter les objets d'intérêt par leur distribution de proba dès qu'on a une invariance par permutation du problème. Et du coup, de pouvoir étudier l'équation aux dérivées partielles sous-jacentes. Donc là, l'idée, c'est de représenter les transformers. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les transformers. Je vais juste expliquer ce qui, selon moi, est l'idée principale, la plus importante des réseaux transformers par rapport au réseau classique. Donc, un réseau classique, en général, ça prend un vecteur, une image, et ça essaie de faire une prédiction. Donc, c'est un réseau qui travaille sur un espace de dimension finie, le nombre de pixels, par exemple. Pour les réseaux transformers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étape d'abord de tokenisation. On va remplacer nos données par un ensemble de tokens qui vont eux-mêmes être remplacés par des vecteurs. C'est-à-dire que l'input d'un réseau de type Transformers, et d'un LLM en général, c'est plus un vecteur, mais c'est un ensemble de vecteurs, et potentiellement un ensemble arbitrairement large de vecteurs. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur un espace de dimension finie, vous êtes sur un espace, a priori, de dimension infinie, l'ensemble des ensembles de tokens possibles. Alors bien sûr, en pratique, il est limité, mais il devient de plus en plus gros. Donc, vous avez des context lengths de plus en plus grandes. Donc c'est un bon paradigme de se dire, on va essayer de regarder les Transformers comme étant des opérateurs qui opèrent sur un espace de dimension infinie, qui est l'espace de tous les groupes de tokens possibles. Donc là, dans le transformer en particulier, donc il y a trois ingrédients dans les transformers. Il y a l'étape de normalisation, je ne vais pas expliquer. Le MLP final, vous avez toujours des MLP, hein, les MLP reviennent en force, hein, multilayer perceptron, donc exactement le, le truc de Lénaïque et Francis. Mais l'étape vraiment originale, qui est l'étape importante, c'est l'étape d'attention, qui est justement un noyau d'interaction qui va faire interagir les tokens entre eux. Donc ça, c'est l'équation du noyau d'interaction. J'ai envie de dire, c'est pas important à cette étape-là. C'est juste un noyau qui fait interagir les particules entre elles avec une formule particulière, qui est intéressante, qui n'est pas triviale. Il y a en particulier un softmax, donc une normalisation, qui rend l'analyse mathématique assez ardue. Mais il faut vraiment penser ça comme chaque token va bouger à une nouvelle position. Et cette nouvelle position, ça va être une moyenne pondérée de ses voisins selon une certaine formule, un certain noyau K de XY. Voilà. Et vraiment, j'insiste encore une fois, l'intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe quand on a un nombre arbitraire de tokens. Comprendre l'optimisation, comprendre l'expressivité, comprendre qu'est-ce que fait un transformer optimal. C'est des questions complètement ouvertes et je ne pense pas qu'on va les résoudre prochainement. Je pense que c'est des questions très difficiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire mathématiquement? C'est juste réécrire exactement les équations avec le formalisme des champs de vecteurs qu'on a vu depuis le départ. Donc on va dire l'attention, j'ai noté grand A, qui dépend de paramètres oméga. Donc les paramètres oméga, c'est les fameuses matrices Q, K, V, mais encore une fois, peu importe, c'est juste des paramètres qui paramétrisent le noyau d'attention. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un token X, il va l'envoyer à une nouvelle position, que j'ai noté A de petit x, mais ce qui est extrêmement important, tout comme dans les particules en interaction, c'est que ce champ de vecteur, il n'est pas défini a priori de façon fixée, il dépend de ses voisins, il dépend du contexte, ce qu'on appelle le contexte, mais qui sont juste les autres particules. Et c'est ça l'importance dans les transformers, c'est que l'attention, contrairement au MLP, elle dépend de tout le contexte, de tous les mots de la phrase. Et c'est ça qui fait que les transformers sont si efficaces par rapport à des réseaux récurrents. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle, et ce que les gens appellent souvent un in-context mapping, le fait de faire de l'apprentissage in-context, ça fait référence au fait que la destinée d'un token dépend des tokens voisins. Je veux aussi juste, j'ai oublié de le dire, là je travaille sur des attentions non masquées, donc c'est-à-dire je travaille sur des architectures du type décodeur ou des vision transformers. Quand on masque l'attention pour la rendre causale, tout devient beaucoup plus complexe. Donc là, je fais vraiment que la théorie ou l'analyse dans le cas de réseaux transformers non causaux, donc invariant, équivariant par permutation des tokens. Donc là, on va essayer la même idée que tout à l'heure avec le papier de Francis et Lénaïque. Vu qu'on a une architecture qui est équivariante par permutation des tokens, si vous permutez vos tokens en entrée, les tokens en sortie sont permutés, vous pouvez représenter tout ça à l'aide de distribution de proba, qui est tout simplement la distribution de proba sur l'espace des tokens. Donc c'est la même idée, mais très très différente, puisque avant, on représentait la distribution des neurones, des paramètres. Ici, on va représenter la distribution des tokens, donc des données qui évoluent, des activations. J'utilise la même lettre X pour indiquer deux choses qui n'ont rien à voir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a une distribution de proba, on va tout simplement remplacer les sommes par des intégrales. Donc si vous avez un nombre fini de tokens, il y a égalité. Une intégrale contre une somme de Dirac, c'est juste une somme. Donc c'est juste une façon de réécrire la chose, mais qui a l'avantage, du coup, je pense, d'extraire un peu la structure du problème et aussi de pouvoir potentiellement considérer un nombre arbitraire de tokens. Arbitrairement grand, voire possiblement infini, on peut représenter, on peut mathématiser des transformers avec une distribution continue de tokens. Qu'est-ce qu'on va faire après en pratique? Et ça, c'est la pratique, on va faire des transformers extrêmement profonds. Donc, à quelque part, c'est des transformers qui peuvent avoir un nombre arbitraire de tokens, mais ils vont également avoir un nombre arbitrairement grand de layers, et c'est exactement l'idée des ResNets. En rajoutant une skip connection devant, vous allez même pouvoir regarder la limite en profondeur infinie. Vous allez pouvoir mettre un nombre infini de tokens, tout simplement en disant que cette équation, vous avez un nombre fini de layers. Quand vous faites tendre le nombre de layers vers l'infini, ça devient une équation dérivée ordinaire, une équation en temps. Cette fois-ci, le temps, faites attention, c'est plus le temps d'optimisation, c'est plus le temps d'échantillonnage, c'est la profondeur dans le réseau. Donc, cette évolution en fonction du temps, ça veut dire que vos tokens, ils évoluent à travers les couches du réseau. Donc, chaque token va suivre une équation aux dérivées ordinaires, donc x de t, mais ce qui est très important, crucial, c'est que ce champ de vecteurs qui advecte vos particules dépend de la distribution des autres tokens. Vous êtes influencé par tous vos voisins. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a l'équation de Liouville une fois de plus. Quand vous avez un système d'équations différentielles couplé avec des champs de vecteurs, quand vous regardez ça au niveau eulérien, vous avez l'équation de conservation avec le champ de vecteurs qui n'est plus un gradient Wasserstein, qui n'est plus le gradient du log, qui est la tension. Voilà. Donc ça, c'est une équation qui résume les transformers. Si vous n'avez pas de normalisation, en tout cas, vous avez ça. Une normalisation, il faut la rajouter dans l'équation. Et c'est pas surprenant, je pense. Ce n'est pas un flow Wasserstein, donc on l'a démontré avec Michael dans sa thèse. En général, grand A n'a pas de structure de gradient. même pas en général, tout le temps, ça n'a jamais une structure de gradient. Donc ça n'avait pas d'influx au Wasserstein. Alors, pour ceux qui sont intéressés, dans certains cas, certaines contraintes sur Q, K et V, ça peut quand même s'écrire pour un flow, pour une distance géodésique, que je pourrais appeler la distance géodésique des transformers, si on voulait être un peu pompeux, qui est une distance de Benham-Brownier modifiée. Vous avez une pondération qui dépend du fameux facteur du softmax. Là. Voilà. Et dans ce cas-là, vous pouvez montrer qu'effectivement, un transformer en profondeur va réaliser un flow gradant, va minimiser une énergie qui est juste une énergie d'interaction entre les tokens. Je pense que ça explique absolument pas le succès des transformers, c'est juste rigolo, sympathique. Je pense que c'est juste une façon d'essayer d'analyser un peu ce que peut faire un transformer en termes d'interaction entre ces tokens. Pareil pour ceux qui sont intéressés, donc on a mis le preprint sur Archive hier avec Valérie. Un cas sympa qu'on peut vraiment analyser pour le coup en détail et se rendre compte que c'est très compliqué, c'est le cas des gaussiennes. Donc Valérie a remarqué, c'est une remarque simple mais à mon avis élégante, que dans le cas des gaussiennes, elle reste fixée par les transformers. Une gaussienne reste une gaussienne à travers quand on applique des attentions. Donc l'équation dérivée partielle, donc en dimension infinie, dans le cas des gaussiennes, devient une équation aux dérivées ordinaires sur la moyenne et sur la variance, donc devient une équation différentielle en dimension finie, qu'on peut essayer d'analyser. Malheureusement, c'est une équation qui ne vérifie pas Cauchy-Lipschitz. Le membre de droite, il n'est pas Lipschitz. Donc c'est des équations qui peuvent exploser en temps fini. Et ça explique un peu les phénomènes qu'on a dans les transformers, où vous avez des matrices qui deviennent très sparses, vous avez des tokens qui s'agrègent les uns sur les autres, qui est une remarque qui a été faite par Cyril Le Truit, Borgen Giskowski, Polanski et Philippe Rigolet récemment. Donc c'est un peu le même genre d'idée de comprendre un peu cette dynamique explosive pour ces équations aux dérivées partielles. Comme promis, je n'ai pas le temps vraiment de parler de génomique, je vais juste faire de la pub pour ces travaux, qui sont extrêmement importants, tout autant que le machine learning, qui est de comprendre la structure de la biologie, la structure de l'évolution des ensembles de cellules à travers différents phénomènes. Ça peut être le développement d'un embryon, le cancer, les traitements. Donc le voir sous le prisme d'une évolution dynamique de distribution de probabilité. Et c'est important pour comprendre la diversité des cellules. À la fois, il y a plein de types de cellules différentes dans le corps humain. Les cellules, elles ont différents états, elles vont bouger d'état en état durant des processus dynamiques. Et donc ça, c'est mal compris et c'est un sujet extrêmement important. Et la grosse révolution, et je m'excuse de flasher ça aussi vite, mais la grosse révolution, c'est la génomique à cellules uniques. C'est le fait que maintenant, on peut screener non pas une population de cellules dans une biopsie, on peut screener les cellules indépendamment les unes des autres. Donc on peut avoir accès à une précision sans précédent avec des corpus maintenant de plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers et bientôt millions de cellules qu'on va pouvoir screener dans le temps. Par exemple, avoir accès à l'expression de leur ARN dans le temps. Alors il y a différentes modalités, ce n'est pas forcément l'ARN, mais l'ARN c'est le plus populaire. C'est-à-dire que chaque cellule va être un vecteur en très grande dimension et chaque biopsie va être un ensemble de vecteurs en grande dimension. Et ce qui est fondamental, et c'est exactement ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est quand vous allez faire différentes biopsies d'un patient dans le temps, durant un traitement du cancer, vous allez avoir des ensembles de cellules, mais quand vous faites une biopsie, vous tuer les cellules. Vous ne pouvez pas retracer dans le temps l'évolution de chaque cellule individuelle. Vous ne pouvez pas savoir la cellule embryonnaire, qu'est-ce qu'elle va devenir exactement dans un temps beaucoup plus loin. Et donc on se retrouve exactement avec la même question que pour le flow matching, la même question que inverser l'équation de Liouville, ce que les biologistes appellent l'inférence de trajectoire, trajectory inférence, à partir de l'observation de snapshots de cellules, essayer de reconstruire les trajectoires. Et donc ça, c'est une question très profonde. Il y a pas mal de papiers qui sortent depuis 2020 et qui permettent de faire des découvertes biologiques. Enfin, c'est pas juste pour le plaisir de le faire. Ça permet de comprendre des nouveaux types de cellules, comprendre des nouveaux types de réseaux d'interaction entre les gènes. Enfin, il y a énormément de découvertes qui sont faites grâce à la compréhension de la dynamique. Et ça peut se faire avec du transport optimal, sinon je ne serais pas là. Il y a un papier de Schillinger qui l'a fait il y a 4-5 ans, où cette fois-ci, tout simplement, on va supposer qu'on va relier les cellules par des champs de gradient, par des transports optimaux. Donc c'est un modèle extrêmement simple, et vous imaginez bien que ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de modéliser ça comme des optimisations de fonctionnels, donc des flots gradients. C'est un peu pour ça que j'en ai parlé. Donc il y a Charlotte Bune qui a fait sa thèse là-dessus à l'ETH récemment, donc elle a pas mal de contributions là-dessus. Et nous-mêmes, donc avec Laura Contini et Gert qui a fait sa thèse sur ce sujet-là, on développe des techniques de transport optimal pour décrire ces évolutions comme des flots minimisants qui minimisent des potentiels sur les cellules. Donc c'est comprendre ce qui force les cellules, ce qui guide les cellules dans leur choix. Et ça, c'est important. À partir d'observations. Donc là, les alpha de T, on ne les prescrit pas par flow matching, c'est les alpha de T qu'on a à travers des biopsies. Voilà. Donc, quelques mots de conclusion pour résumer un peu ce qui a été dit. Je sais que c'est très dense, mais je voulais quand même vous transmettre des messages qui me semblent importants. La première chose, c'est qu'il y a une relation entre les techniques de diffusion et les techniques de transport. On pourrait résumer ça en disant que, en tout cas dans le cas d'une mesure initiale gaussienne, les techniques de diffusion définissent des champs de vecteurs qui sont dégradants. Par contre, globalement, les trajectoires sont a priori absolument pas des transports optimaux. En particulier, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais dans la formule de Benamou-Grenier, on obtient comme bonus, comme résultat, le fait que les trajectoires vont être des lignes droites. Les interpolations vont être, au niveau des trajectoires, des lignes droites, vont en fait être plus généralement ce qu'on appelle, enfin, des gradants de fonctions convexes, donc il y a une structure très très forte. Pour, a priori, pour les modèles de diffusion, ce n'est absolument pas le cas. On a des trajectoires qui sont extrêmement courbées, donc c'est une simu numérique, ce qui pose d'immenses problèmes en termes d'intégration numérique. Donc, intégrer une EDO en dimension finie, enfin en dimension 3, c'est déjà très complexe. Intégrer une EDO en très très grande dimension, quand en plus vos trajectoires sont extrêmement courbées, on sent que c'est difficile. Et intégrer les trajectoires, c'est ça qui va vous coûter. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes une compagnie et que vous voulez générer plein d'images, et bien, le nombre d'étapes dont vous allez avoir besoin, c'est essentiellement ça à votre coût. Hein, le coût d'apprentissage, alors c'est peut-être, je ne sais pas si maintenant tout le monde est au courant, mais le coût, le nombre de dollars et le temps d'apprentissage d'un réseau, il n'est pas important. Maintenant, ce qui est important, c'est le coût en test time. C'est combien ça vous coûte de servir à des millions d'utilisateurs votre réseau. Et l'apprentissage, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Donc c'est maintenant, a priori, si vous avez un temps infini, peut-être le transport optimal va redevenir à la mode. On sait, who knows. Et donc, une fois que vous avez votre transport optimal, en test time, ça vous coûte pas cher. Vous avez des trajectoires en ligne droite, et bien sûr, les trajectoires en ligne droite, ça s'intègre très très facilement, puisque l'erreur d'intégration sur un schéma de l'air, c'est la courbure de vos trajectoires. Donc voilà, c'est une question un peu savoir c'est quoi les trajectoires qu'il faut privilégier. Sur les techniques d'optimisation, je pense que tout est ouvert. Comprendre, optimiser des réseaux profonds, c'est complètement ouvert. Donc avec la thèse de Raphaël, on essaie de comprendre ce qui se passe sur les ResNet. Et il se trouve que sur les ResNet, il y a des simplifications qui se font. J'ai noté que Stéphane disait qu'effectivement, les ResNet, ça ne pouvait pas représenter tous les réseaux. Et effectivement, les ResNet, c'est une structure très particulière, une structure de difféomorphisme, qui fait qu'on peut avoir des preuves un peu plus fortes, mais ça reste quand même globalement un problème ouvert. La conjecture, c'est qu'avec proba 1 sur l'initialisation de votre ResNet, vous allez toujours converger vers le minimum global, c'est ce qu'on observe en pratique. Ça, c'est un théorème, joli théorème, complètement ouvert, pas encore prouvé. Pour les transformers, là, ce qu'on essaie de démontrer, c'est déjà le théorème d'universalité, donc ça, on l'a démontré avec Takashi récemment. Les transformers sont des machines universelles sur les réseaux de neurones en dimension infinie, ce qui est un théorème qui n'est pas surprenant, mais qu'il fallait prouver. Voilà. Mais ça ne dit pas grand-chose sur pourquoi les transformers marchent, donc comprendre les transformers optimaux, vous êtes jeune, dynamique, vous allez faire des tests, j'espère. C'est le genre de question qui me semble intéressante, puisque tout le monde utilise les transformers depuis déjà pas mal d'années, donc c'est des architectures qui, je pense, ont besoin d'être comprises mathématiquement. Et voilà, je m'arrête là, et je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.